Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente, Yves De Angeli, et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek, membre de l'Astroclub du Marsan.
Bonjour.
Lors de notre dernière émission, nous avons découvert comment s'était formé le système planétaire, le système solaire. Allons un peu plus loin et essayons de comprendre comment notre univers s'est créé. Enfin, ce serait plutôt des éléments de réponse parce qu'on n'a que des hypothèses, et elles sont nombreuses et différentes. Sur Terre, on comprend facilement l'évolution des espèces, mais comment la vie a commencé et d'où vient-elle, mystère. C'est exactement le même schéma pour l'univers. On observe des astres, des objets cosmiques, on pense comprendre leur évolution actuelle, mais comment cela a-t-il commencé? Dans toutes les civilisations, des récits mythologiques décrivent la création du monde. Elles expliquent comment il s'est formé avec leur cortège de dieux et de déesses, avec leurs croyances et avec leur mythologie et une fin qui est souvent cataclysmique. Mais ces explications, elles fonctionnaient bien parce qu'il n'y avait aucun moyen de contester ce qui était énoncé. L'univers à l'époque ne se résumait qu'à la Terre et à son petit environnement proche. Donc là, on avait tout un ensemble de représentations d'univers totalement différentes et qui était basé sur leurs dieux, sur comment ils pensaient que les dieux étaient descendus sur Terre et avaient créé l'univers. Avec l'évolution des connaissances, de nouvelles théories et de nouvelles philosophies ont commencé à voir le jour.
Oui, alors ça c'est vrai, j'en ai vu pas mal, mais alors certaines vraiment bizarres.
Oui, il y en a plein, il y a des univers bulles, on a les multimondes, on a les univers parallèles. Tout le monde pouvait se laisser aller, comme faisaient les anciens, se laisser aller à leur explication de l'univers. Mais ce n'est qu'à la première moitié du 19e qu'on a commencé à vraiment pouvoir mesurer les étoiles. On a mesuré les étoiles avec le système du parallaxe et on a vu que les répartitions, on a pu comprendre la répartition spatiale des étoiles au sein de notre galaxie. Et on a pu voir que on ne pouvait pas l'expliquer. C'est-à-dire qu'on connaissait les théories de Newton, on en a parlé lors d'une précédente émission. Mais on ne pouvait pas expliquer pourquoi les étoiles elles étaient réparties de cette façon-là. Donc à l'époque, on considérait que l'univers était statique et éternel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. On était là et ça se passait comme ça. Donc du fait qu'on n'arrivait pas à expliquer la répartition un petit peu de tous ces points où on avait toutes les étoiles ou les galaxies, eh bien il y a des scientifiques qui ont cherché. En 1915, le premier qui a sorti une théorie, c'est Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, qui propose un univers qui reste statique, fini et statique. Et lui, plutôt que de se baser sur les théories newtoniennes, il crée une nouvelle physique, on va dire une nouvelle explication. Pour lui, la gravitation de Newton, ce n'est pas une force, c'est une manifestation de l'espace qui est courbe. C'est-à-dire que la courbure de l'espace, elle est liée à la distribution de l'énergie sous forme de masse, et c'est elle qui va perturber le déplacement de la lumière ou le déplacement des astres autour d'un objet qui est vraiment très très lourd, enfin très pesant, on va dire, à la façon de voir d'Einstein. Lui, il va rester sur un univers qui va être un univers statique, un univers qui ne va pas bouger. Dans les années 20, la nature extragalactique des nébuleuses, donc tous ces petits points qu'on voyait du ciel, on n'arrivait pas vraiment à discerner les étoiles, on voyait une masse un petit peu laiteuse, eh bien Hubble a déterminé qu'elles n'appartenaient pas à notre galaxie. Et donc, pour lui, il y avait déjà, l'univers prenait un peu plus de volume, un peu plus de surface. Et Friedman, qui était aussi un autre scientifique, lui, il a proposé un univers en expansion. Il s'est passé de la constante cosmologique qu'avait mis en place Einstein, parce que lui, dans son esprit et dans sa philosophie, l'univers n'était pas en expansion, il était statique. Donc il avait introduit une petite constante cosmologique pour l'arranger bien, et finalement, il l'a regretté plus tard, parce qu'il a même dit que c'était la plus grosse erreur qu'il avait fait, en fait, de sa vie. Donc Friedman propose un univers qui s'étend, et il prédit que normalement, si l'univers s'étend, eh bien, on aurait ce qu'on appelle du redshift, c'est-à-dire que la lumière se décalerait vers le rouge. Bon, le redshift, globalement, c'est... On pourrait illustrer ça quand vous voyez une ambulance qui arrive derrière vous, elle a un certain son, et quand elle passe à côté de vous, elle a son son naturel, et quand elle s'éloigne, on voit le son qui change, la fréquence du son qui évolue. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler, on pourrait faire le parallèle avec le redshift. Donc c'était une théorie, il ne restait plus qu'à prouver ça. Et donc ce décalage a été prouvé par Hubble en 1929. C'est-à-dire que quand il a fait les mesures, il a pu calculer en fait ce décalage. Donc ça voulait dire que effectivement l'univers n'était pas statique. mais il y avait plein de possibilités. On savait que maintenant l'univers bougeait, n'était pas vraiment statique. La matière qui était dedans, on ne comprenait pas encore comment elle venait, d'où elle venait, est-ce qu'elle se créait, tout avait été créé à un moment donné, ou est-ce qu'elle se créait continuellement, c'est-à-dire continuellement pendant dans toute la vie de l'univers, il y avait de la matière qui disparaissait, de la matière qui se recréait. Donc Georges Lemaître, en 1927 aussi, avait aussi prédit ce décalage, et en fait, on va dire la théorie du Big Bang, on peut l'attribuer à ces deux-là, donc on peut l'attribuer donc à Lemaître et Friedman. Donc il y avait plusieurs hypothèses, et l'hypothèse la plus intéressante, dans la première il y avait conservation de matière, c'est-à-dire qu'il y avait un Big Bang et toute la matière est née à ce moment-là, et après on n'avait que cette matière-là dans l'univers, il n'y en avait pas qui se créait. La deuxième, il y avait de la matière qui se créait de temps en temps. Donc ça paraissait plus naturel, les scientifiques au début ont préféré celle-là, sauf que le problème, quand on faisait les calculs, on retrouvait la Terre qui était plus vieille que l'univers. Donc c'était pas possible. Donc forcément, c'était la première, on partait du Big Bang. Et on a gardé en fait cette idée fondatrice du Big Bang qui nous, pour l'instant, est la seule qui fonctionne.
Alors finalement, le Big Bang, l'univers, il aurait commencé par une explosion.
C'est pas une explosion, Big Bang, c'est... À un moment, il y avait un élément qui était tout petit et qui a grossi très vite. Le nom Big Bang, c'est Fred Hoyle, qui était aussi un astrophysicien, qui se moquait un petit peu de cette théorie et qui, dans une émission radio, a qualifié ça de Big Bang, mais il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'endroit où c'est venu. On ne peut pas aller chercher l'endroit de l'explosion en remontant le temps. C'est-à-dire que c'était l'univers qui était là, un endroit qui était très très dense, très très chaud. On ne sait pas trop ce qui se passait là, voilà. On pense qu'il n'y avait pas d'objets qu'on appelle des objets astrophysiques comme des étoiles et des galaxies, il n'y avait rien, c'était uniquement de la matière, et que les différents objets qu'on voit actuellement dans notre ciel, eh bien, ils sont simplement formés naturellement par ce qu'on appelle l'instabilité gravitationnelle, c'est-à-dire que les plus petits, les plus gros attirent les plus petits et ça fait des objets. Donc quand on met en place, quand on utilise donc cette relativité générale, on réutilise la mécanique quantique, la théorie des champs, donc les différentes théories astrophysiques, eh bien on peut calculer que notre univers, il aurait entre 13 et 14 milliards d'années. Et on va pouvoir essayer de remonter, justement, on va remonter le courant pour essayer de trouver quel était le début en fait de cet univers. Alors aujourd'hui, on considère que dans notre univers, ce qu'on connaît, on connaît de la matière ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher, c'est-à-dire les atomes, en gros, la table, le micro, tout ça, c'est fait avec des atomes. On peut le quantifier, en gros, il y a 5% dans notre univers, 5% de matière comme ça. Tout le reste, on ne le connaît pas, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc dans l'idée, on considère qu'il y a la matière noire, je pense que vous avez entendu parler un petit peu de ça. La matière noire, c'est 25%, donc ce serait de la matière, on ne connaît pas comment elle est faite, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et on aura encore de l'énergie, l'énergie qui serait à peu près à 70%, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors l'énergie, pour Einstein, quand on prend son équation E égale MC2, on a un lien direct entre l'énergie et la masse, donc c'est une autre forme, on va dire, de masse. Mais donc on voit qu'il y a 95% qu'on ignore, et il est fort probable que, de par le passé, cette répartition soit totalement différente. Par exemple, suivant les théories, actuellement, l'antimatière n'existe pas ou peu, enfin on n'arrive pas à la visualiser. Mais dans les théories, à un moment, il y a eu un équilibre entre matière et antimatière. Et il y avait un peu plus de matière que d'antimatière. Et donc, ils se sont annulés, entre la matière et l'antimatière, ça s'est annulé. Et le petit surcroît, le petit élément en plus de matière, a fait la matière qui existe actuellement. Donc, le dessin de l'univers, il n'est pas connu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on a déjà du mal à connaître le passé et on a du mal à estimer qu'est-ce qui se passera après nous, dans l'avenir. Donc, pour l'instant, on essaie déjà principalement de comprendre comment ça s'est formé. Et si on a la bonne théorie pour la formation de l'univers, on pourra après extrapoler le futur de l'univers.
Alors, c'est bien beau la théorie, mais est-ce qu'on a des preuves de tout ça ?
On a des preuves. Par rapport à ces théories-là, on a des preuves, puisque... dans ces modèles de Big Bang, il devait y avoir beaucoup d'énergie, donc il devrait en rester. Il devrait rester, elle devrait être visible. C'est ce qu'ils ont appelé le fond diffus cosmologique. Donc c'était la théorie. Si on arrivait à mesurer ce fond diffus, ça voulait dire qu'effectivement, à un moment, la théorie du Big Bang était bonne, ce qu'on pensait. Et puis, on a, dans cette théorie-là, on avait aussi le nombre de, on va dire, la proportion d'atomes légers, l'hydrogène, l'hélium et même du lithium. On l'avait calculé par la théorie et globalement, ça devait fonctionner. Donc le fond diffus cosmologique a été trouvé, il était prédit et il a été trouvé, on va dire, un petit peu par hasard par des scientifiques qui travaillent sur des antennes pour des communications avec des satellites. Et ils avaient un bruit de fond toujours qui traînait, ils n'arrivaient pas à le régler. Ils pensaient que c'était les pigeons qui, avec leur crotte, modifiaient l'antenne. Et ils se sont rendu compte que c'était une valeur qui était stable, c'était pas une perturbation. Et en mesurant ce fond, eh bien, effectivement, ils ont trouvé qu'il y avait un bruit de fond dans l'univers. Et ce bruit de fond correspondait exactement à ce qui avait été programmé, ce qui avait été prévu par la théorie. Donc, ils ont eu un prix Nobel de physique pour ça. Et depuis, on a mesuré, on arrive à mesurer facilement. Maintenant, avec les différents satellites qui ont été envoyés, on mesure exactement le fond diffus cosmologique et la répartition de la matière dans notre univers.
Alors, avec toutes ces connaissances, est-ce qu'on peut connaître comment tout a commencé ?
Ben, on va essayer de connaître le passé de l'univers. On va partir à rebours, c'est plus simple, hein, un peu comme je vous l'avais dit au début pour l'évolution des espèces. On part de ce qui existe, puis on essaie de voir comment ça aurait pu arriver. Quels étaient les phénomènes qu'aurait pu faire qu'on arrive à cette situation-là. Donc aujourd'hui, on est à 13,8 milliards d'années. L'univers est quasiment vide, il est très peu dense. Hein, il y a quelques atomes par mètre cube d'univers. Très froid, il fait moins 270 degrés, moins 271 degrés dans l'univers. Il y a quelques petits points chauds qui sont les étoiles ou les galaxies, mais les distances, les étoiles sont très très éloignées les unes des autres. Donc les étoiles et les galaxies, on pense, elles sont apparues 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc on peut donner à peu près leur âge. On arrive à le calculer avec le redshift, on arrive à savoir exactement quand elles sont nées. Et le seuil d'avant, qui est pour nous très très embêtant, c'est le seuil qu'on appelle la recombinaison. C'est-à-dire que c'était le moment où l'univers était encore très très froid, très très chaud et très très dense. C'était de la matière qui n'était pas encore complètement rassemblée, qui n'était pas complètement sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, pour nous, c'est notre limite. C'est-à-dire que, étant donné que l'information qu'on a des objets du ciel, c'est de l'information qui a besoin d'avoir un élément de transport, par exemple le photon, qui nous donne de l'information, ben le photon, à cette époque-là, comme l'univers, les températures étaient tellement élevées, le photon ne pouvait pas partir. Il était emprisonné dans cette zone-là, emprisonné par les interactions entre les différentes particules. Et donc, pour nous, ici, c'est vraiment la limite de l'univers observable, c'est la limite de tous les instruments qu'on a. On n'arrive pas à aller voir plus loin. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby. You
observable limite. C'est pour ça que j'ai lu qu'on ne pouvait pas voir le Big Bang.
Exactement, parce qu'on n'a aucun élément, enfin, on n'a aucun élément d'information qui peut émerger dans cet environnement-là. Juste avant, en fait, cette limite de l'univers observable, on a ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Hein, globalement, ça a duré à peu près, c'était 3 minutes après le Big Bang. Donc, c'est là que se sont formés, on va dire, les premiers atomes. Et on peut quantifier, actuellement avec les accélérateurs de particules, on peut comprendre comment ces atomes sont créés, comment ils peuvent s'assembler. Donc ça, on est encore avec de la physique traditionnelle, physique des particules, on arrive encore à estimer ça. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la preuve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir, quoi. Donc cette nucléosynthèse, elle a permis de faire, de construire des atomes, mais elle était vraiment très très brève, vraiment très très courte. Donc elle a eu le temps de faire que les premiers atomes les plus simples, hein, ce qu'on a cité tout à l'heure, l'hydrogène, l'hélium, un peu de deutérium, du lithium, mais vraiment c'est les atomes les plus simples. Elle n'a pas eu le temps de faire des atomes un peu plus compliqués. Avant ça, on avait des températures qui étaient de l'ordre de 5 milliards de degrés. Donc 5 milliards de degrés, ça veut dire qu'il était impossible pour les noyaux, pour les particules de s'assembler. L'énergie, la température était trop élevée. L'agitation électronique était trop élevée pour qu'on puisse rassembler tous ces éléments-là. Et quelques 10-29 secondes après le Big Bang, donc ça veut dire qu'on a eu le Big Bang et après 0,29 zéros après 2 secondes, là, donc c'est très rapide, hein, c'est là que se sont formés les premiers noyaux, les premières particules. Avant, on était sur de l'énergie, on était vraiment sur de l'énergie, de la matière. Et c'est là que se sont formés ce qu'on appelle des baryons, c'est ce qui s'appelle c'est les noyaux en fait qu'on va retrouver maintenant actuellement. Donc on est vraiment sur un claquement de doigts très rapide. Les noyaux sont créés. Juste avant, ce qui s'est passé, c'est que notre univers était très petit et d'un seul coup, il a explosé. Enfin, ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire qu'il a grandi d'un facteur énorme, quasiment instantanément. Il se sera agrandi d'au moins 100 millions de milliards de fois, instantanément. Donc c'est ça qu'on va retrouver en fait dans une partie du fond diffus cosmologique. C'est que comme l'univers était très dense, comme il s'est étendu très vite, naturellement on a une répartition homogène de toute la matière. On n'a pas eu le temps pour que la matière puisse coaguler à certains endroits. Et c'est la preuve en fait que, effectivement, là, le fond diffus cosmologique est la preuve du fonctionnement de ce qu'on pense. Donc pour l'instant, tout ça, bon, on ne peut pas tout voir, mais ça fonctionne encore avec nos théories. Et quand on remonte encore un petit peu avant, c'était ce qu'on appelle l'ère de Planck, là, nos connaissances physiques, nos connaissances sur la physique des particules, toute notre physique ne marche pas. Toutes nos lois physiques ne fonctionnent plus. Donc on pense qu'il y a... Notre physique, elle est incomplète, il manque des éléments et que... Pour l'instant, on n'a pas les moyens de comprendre ou ne serait-ce que d'imaginer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est juste après le Big Bang.
Alors, on parle souvent de singularité dans les livres. C'est quoi ?
Alors, singularité, ça veut simplement dire que c'est un endroit où, un endroit très dense, un endroit où, en fait, plus aucune loi physique ne fonctionne par rapport à celle que nous connaissons actuellement. Donc, c'est vraiment l'endroit où on ne sait plus. On ne sait même plus. On ne peut pas l'imaginer et encore moins le valider. Et avant tout ça, avant cette ère de Planck, cette singularité qui était le point de départ de tout ça, eh bien, il y a forcément eu quelque chose. Alors, il y a plusieurs théories qui se lancent pour expliquer d'où vient l'univers. Alors, il y en a une qui est le pré-Big Bang, ça date des années 90 un petit peu, qui donne l'idée que l'univers était très très grand, qu'il y avait des endroits où la matière était un peu plus dense. En vieillissant, elle a densifié de plus en plus, elle a agrégé de plus en plus de matière. Et cette matière-là est devenue très très forte, très très condensée, jusqu'à créer des trous noirs qui étaient suffisamment gros et suffisamment denses pour arriver aux limites de la physique des particules et qui auraient donc fait un rebond et qui auraient créé, chaque petit trou noir aurait créé un univers. Donc dans cette théorie-là, ben, à la limite, il pourrait y avoir plusieurs univers qui sont créés les uns à côté des autres, venant d'un trou noir. Une autre théorie, c'est le grand rebond, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un univers précédent, préhistorique, qui était avant nous, et cet univers, eh bien, au bout d'un certain temps, il est devenu en expansion, il s'est stabilisé, et il s'est de nouveau condensé. Et même problème, c'est-à-dire que lorsqu'il s'est condensé, la matière s'est condensée, et on est arrivé à un endroit d'une singularité où la matière était tellement dense et tellement chaude que ça a créé le démarrage d'un nouveau Big Bang, le départ d'un nouveau Big Bang et cette nouvelle extension. Donc il y a des extensions. D'après cette théorie-là, il y a un univers qui vit, qui se contracte, qui redevient Big Bang, qui vit, qui se contracte, qui redevient Big Bang. Ce serait une des théories les plus faciles à voir. Il y en a d'autres avec la théorie des cordes, avec des branes, avec des éléments qui se percutent, mais pour l'instant, cette théorie des cordes, elle n'est pas complètement validée. Donc, voilà, on peut imaginer, on se retrouve dans la même situation que les ancêtres, nos ancêtres, qui donnaient leur avis, leur idée sur qu'est-ce qu'était l'univers.
C'est pas simple, tout ça.
C'est compliqué, c'est pas forcément... c'est compliqué à visualiser, principalement, parce que les questions habituelles, c'est oui, mais l'univers, mais il s'étend dans quoi ? Ben, dans rien. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? D'où ça vient ? Pourquoi il y a tant de matière ? On ne peut pas la condenser. Donc toutes ces questions-là, on les a pas. On n'a pas la réponse réelle pour ça. On arrive presque sur de la philosophie. Mais si on veut résumer en fait rapidement ce qui se passe, on avait un pré-Big Bang, on avait un autre univers, etc. On condense la matière. La matière qui est vraiment très très condensée, eh bien elle va arriver à une limite fixée, et dès qu'elle va dépasser cette limite-là, il va y avoir une réaction de répulsion, et on va pouvoir faire démarrer le Big Bang. Donc les différentes forces qui sont dans la nature, elles vont être, au départ, elles sont toutes seules, enfin elles sont réunies, et avec l'abaissement des températures, les forces vont se découpler, on va retrouver la gravitation, on va retrouver les forces nucléaires qui lient les atomes, les noyaux dans les atomes. Elles vont se libérer un petit peu tout doucement. Les atomes vont pouvoir se créer. On va créer des atomes à partir de quarks, qui sont les sous-ensembles des noyaux. Et puis après, ben, on va voir ces petits quarks qui vont s'assembler entre eux, qui vont faire des noyaux complets, donc des protons et des neutrons. Voilà. On aura des photons qui vont être créés, on aura tout un ensemble de petites particules qui va être créé. Après, ben, ces particules, au début, elles sont très chaudes, elles n'ont pas leur cortège électronique, elles ne sont pas stables. On a plein d'électrons, on a plein de particules qui vivotent autour, comme il fait encore très très chaud. On se retrouve avec une espèce de plasma, avec toutes ces particules qui sont ensemble, une soupe. Et quand la température va baisser un petit peu, ben, il y aura moins d'activité sur ces particules-là, et elles pourront être capturées par les noyaux des atomes. Et c'est pour ça qu'à l'issue de cette nucléosynthèse, eh bien, on a des noyaux d'atomes qui sont créés avec leur cortège électronique, avec des électrons. Et quand la température va suffisamment baisser, eh bien, il n'y aura pas d'interaction, beaucoup moins d'interaction sur ces atomes qui sont un petit peu ionisés, qui sont... la température baissant, les atomes vont se stabiliser, et toutes les petites particules qui sont résiduelles ou qui sont créées lors de la création, lors de la fusion de ces noyaux, toutes ces petites particules, elles vont plus être capturées par les atomes, elles vont être libres, elles vont partir dans l'espace. Et c'est cette lumière-là, en fait, que nous voyons maintenant. C'est-à-dire que c'est la lumière, la limite qu'on a nous, le fond cosmologique qu'on voit nous, c'est les premières sorties de ces premières particules qui ont été libérées par les atomes. Et après, on continue. Et donc, une fois que cette matière a été disponible, que l'univers a commencé à s'étendre un petit peu, eh bien, on aura la formation des étoiles, on aura la formation des galaxies, on aura la formation de tous les astres qui existent, qu'on peut voir actuellement, vont se former petit à petit. Hein, on a récemment, il y a une quinzaine d'années, on a pu relever des galaxies qui étaient en phase de construction, en phase de formation d'étoiles. Elles dataient de 13,2 milliards d'années-lumière. Ça veut dire qu'elles dataient juste après le Big Bang. Vraiment, elles sont très très proches de la limite de l'univers observable. Donc c'est en fait, quand on envoie des satellites et qu'on veut faire des mesures importantes, l'idée c'est d'aller chercher ces objets qui sont le plus loin possible, donc qui sont nés juste après la recombinaison, qui sont nés juste après le Big Bang. Plus on aura d'informations là-dessus, plus on pourra comprendre le cheminement qui s'est passé du Big Bang jusqu'à maintenant. Notre système solaire, lui, il s'est formé 8 milliards d'années après le Big Bang, donc il a à peu près 5 milliards d'années, notre univers. Et aujourd'hui, on est 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Donc voilà ce qu'on sait à peu près du Big Bang. Je vous avais prévenu, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de suppositions, il y a beaucoup d'éléments qui sont non vérifiables. Mais pour l'instant, c'est un système qui... c'est une idée qui fonctionne et que, jusqu'à preuve du contraire, on prend celle-là. Et si on trouve une nouvelle physique, si on trouve une autre théorie, peut-être que le Big Bang, d'ici quelques années, ce ne sera plus la théorie qui explique tout, on en aura trouvé une autre. Donc après ce voyage dans l'inconnu, pour l'instant, parce que tout est appelé à évoluer, nous ferons un autre voyage pour la prochaine émission. Donc je vais vous parler un petit peu du voyage de l'homme dans l'espace, puisque c'est d'actualité. On a l'émission Artemis qui propose de renvoyer l'homme sur la Lune. On a depuis pas mal d'années l'envie d'envoyer un homme sur Mars. Donc on va regarder un petit peu, relater toute cette épopée qui a amené l'homme sur la Lune. D'où vient cette volonté universelle d'exploration? L'homme a toujours été curieux, donc voilà, d'où vient cette idée-là? Les problèmes rencontrés, les réussites humaines et technologiques, on va lister un petit peu pour mieux comprendre pourquoi on pense qu'on est largement en capacité de renvoyer un homme sur la Lune actuellement, et aussi peut-être comprendre pourquoi on ne sera peut-être pas en capacité immédiatement d'envoyer des hommes sur Mars. Donc retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM, ou passez nous voir le mardi soir ou le vendredi soir pour partager le ciel avec nous. Vous êtes les bienvenus, on vous prêtera nos télescopes et vous pourrez aller voir dans nos télescopes si ce qu'on vous a dit est vrai. Donc bon ciel à toutes et à tous, et à bientôt. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.